dans le ventre d'un rocher, qu'elle est dans son lit de foin long, auprès de sa braise enflammée, il se fait cuire un grand poisson. Ses voisins font la guerre et veulent entrer dans sa maison. Lui préfère vivre en solitaire que de se taire assis, que de se taire assis en rond.
Entre les gens de Martin Léon.
Actualité culturelle, on en parle entre autres dans le Journal de Montréal avec à sa une de son cahier plutôt culturel, « Et Lala, Martin Matt déçoit ». Et dans la presse, Inégal, Martin Matt, 3 étoiles. Je vais vous lire cette critique de Stéphanie Vallée. Il aura fallu s'armer de patience pour découvrir enfin le nouveau spectacle de Martin Matt, qui est pourtant déjà monté 3 fois sur la scène de la salle Wilfrid Pelletier en février dernier. L'humoriste qui a choisi de ne pas organiser de première médiatique nous a finalement conviés au Théâtre Saint-Denis hier soir pour assister à son 3e spectacle solo, intitulé « Et Lala ». Point de suspension et point d'exclamation. 10 ans après Condamné à l'excellence et avec 4 saisons de son excellente série télé Les Beaux Malaises au compteur, Martin Matt est de retour avec toute l'arrogance qu'on lui connaît sur scène. D'entrée de jeu, on a aimé renouer avec l'ironie et le style incisif de l'humoriste qui surfe sans attendre et avec raison sur le succès de son émission. Dès les premières minutes, on est projeté dans l'univers de Martin et de sa famille du petit écran, alors qu'il flirte sans cesse entre anecdotes personnelles et fiction. Malgré l'introduction un peu cliché de son premier numéro, Martin Matt nous embarque dans le sympathique récit du mariage de son père, brossant au passage un portrait des plus amusants de ses proches, de son frère traumatisé crânien à sa tante Con, en passant par l'ami mourant de son père. Plus tard, au courant de la soirée, il propose même une courte vidéo dans laquelle il fait un clin d'œil au talent de bricoleur de son personnage à la télé. Au cours des 90 minutes du spectacle, Martin Matt propose deux segments particulièrement inégaux. Le premier est consacré à Facebook. Bien des blagues ont été faites depuis la création du réseau social il y a maintenant 14 ans. Et Martin Matt n'apporte pas grand-chose de nouveau. On ne peut tout de même pas s'empêcher de sourire car ses qualités de raconteur sont indéniables. Là où il réussit à se démarquer, c'est en revenant sur une anecdote qui lui est belle et bien arrivée, alors qu'il a reçu des menaces de mort en chantant l'hymne national quelques jours avant que le Canadien ne perde pendant les séries. Tout aussi inégale, sa réflexion sur la réalité de ses adolescents nous a laissé mi-figue, mi-raisin. En lisant au second degré des paroles de Marie-Chantal Toupin ou de Boum Desjardins, ou en imitant ses ados bougons, blasés et bordéliques, Martin Matt est loin de réinventer la roue. Mais quand il raconte une anecdote de sa propre adolescence, on embarque complètement. Dans « Hé là là », Martin Matt prouve une fois encore qu'il est passé maître dans l'art du malaise avec un excellent sketch sur les dons et la générosité à géométrie variable des gens. En comparant la famine en Afrique aux petits soucis du quotidien des Québécois, il propose une satire sociale intéressante, mais surtout hilarante. On en aurait pris beaucoup plus dans le genre. L'humoriste propose des textes bien ficelés, co-signés avec son complice François Havard, mais qui manquent parfois d'originalité. Loin de la scène pendant un bon moment, Martin Matt aurait peut-être gagné à y passer plus de temps pour repousser ses limites. Il a mis la barre bien haut avec les beaux malaises et est un peu condamné à l'excellence. Dommage que son spectacle ne le sorte pas un peu plus de son personnage qui lui colle à la peau depuis peut-être un peu trop longtemps maintenant. Le Cirque du Soleil ressuscite Allegria. 5 ans après le retrait du spectacle Allegria, le Cirque du Soleil a annoncé hier sa recréation l'an prochain à Montréal sous son grand chapiteau. La pièce phare de la compagnie, dont la musique composée par René Dupéré est l'une des plus emblématiques du cirque, avait été créée en 1994 par le tandem formé de Gilles Sainte-Croix et du metteur en scène Franco Dragone. La direction du cirque a indiqué qu'elle relançait Allegria à la demande générale. Une première pour le cirque qui ne remet pas en question ses nouvelles créations sous chapiteau, nous a assuré son PDG Daniel Lamarre. « Ça, c'est spécial », a-t-il dit. Ça n'empêche pas qu'on a 12 projets en création en ce moment. Le chanteur français Charles Aznavour a été contraint d'annuler un concert à Saint-Pétersbourg après s'être fait un tour de rein lors des répétitions. Le chanteur de 93 ans, qui devait donner une représentation, s'est fait un tour de rein pendant les répétitions, a expliqué Vincent Stark, l'attaché de presse de l'artiste. La salle de concert où il devait se produire a précisé dans un communiqué que le concert de Charles Aznavour a été annulé en raison de l'état de santé de l'artiste, précisant que le spectacle avait été décalé à avril 2019. Charles Aznavour, qui aura 94 ans en mai, s'est senti mal pendant les répétitions, a expliqué au journal russe RBK, la directrice de la salle de concert. Elle a précisé que le chanteur d'origine arménienne a été amené à l'hôpital pour des examens. Festival Métropolis Bleu. La poète Nicole Brossard reçoit le premier prix Violette récompensant l'œuvre, dis-je bien, d'une auteure issue de la communauté LGBTQ canadienne. « Je n'ai aucun mérite, je n'ai écrit que ce qui était beau et bon », lance Nicole Brossard, manière de dire que c'est le désir et la soif d'abord et avant tout qui dictent la direction à emprunter. Ce qui ne signifie pas pour autant que la grande dame des lettres québécoises, une de ses plus novatrices têtes chercheuses, ne mérite pas qu'on la célèbre. Embrasser la teneur subversive de la sexualité lesbienne avec autant de vigueur que dans « Amante », au pluriel, son recueil « Déflagrateur » de 1980, fallait le faire, fallait oser. Partie de la chronique d'Hugo Dumas, enterrer le clash de guerre. Il y a 10 ans, la prise de cette photo aurait été impossible. Chantal Fontaine et Fabienne Larouche se chicanaient par médias interposés à propos du départ, forcé ou non, de la tête d'affiche du téléroman Virginie. Invitée à Tout le monde en parle en avril 2008, Chantal Fontaine avait déploré avoir tourné sa dernière scène de Virginie, sans même savoir qu'il s'agissait de son chant du cygne. Piquée au vif, Fabienne Larouche avait répliqué par une mise en demeure à Radio-Canada. Bref, ça brassait en citron, pour paraphraser notre enseignante préférée de l'époque. Hier midi, les deux femmes ont renoué publiquement sur le plateau de la nouvelle série quotidienne « Clash », produite par Fabienne Larouche et dans laquelle Chantal Fontaine a décroché un rôle important, celui d'une travailleuse sociale bienveillante et empathique. Tout passe dans la vie, mais ce qui reste, c'est le bon. « Move on ». On est en sécurité avec ce genre d'actrice-là. C'est un grand bonheur de retravailler avec Chantal, explique Fabienne Larouche, qui a elle-même négocié le cachet de Chantal Fontaine après la première année de Virginie en 1997, car Jean l'Italien gagnait plus cher qu'elle. « Je n'en revenais pas », poursuit Fabienne Larouche. Il n'y avait aucune raison valable pour justifier ça. Le show portait le nom de Virginie en plus. L'auteur et productrice portait d'ailleurs le chandail « Dior, we should all be feminists », qu'ont aussi enfilé par le passé les Rihanna et Natalie Portman. Questionnée au sujet de la célèbre querelle, Chantal Fontaine ne s'est pas défilée. Cela fait déjà 10 ans. On s'était revus depuis et j'étais revenue pour la dernière de Virginie. Fabienne et moi, on le sait qu'on travaille bien ensemble. Nous voici repartis, mon kiki, lance l'actrice qui a incarné Julie dans Yamaska pendant 7 saisons. Parlons maintenant de Clash, la quotidienne que relayeront Super Écran et Vrac l'automne prochain. Cette série tourne autour d'un groupe de 5 jeunes adultes joués par Rose-Marie Perrault, Félix-Antoine Quentin, Alex Godbout, Ludivine Redding et Alexandre Nachy, qui fréquentent le même centre de réadaptation, l'Atrium. 3 des 5 protagonistes de Clash, dont 2 joueurs de soccer et d'élite, ont été impliqués dans un grave accident de la route provoqué par un criminel incarné par Guillaume Cyr. Également en rééducation, à l'Atrium, une mannequin internationale brûlée lors d'une séance photo, ainsi qu'un étudiant en biologie victime d'une agression sauvage dans une ruelle. Lucie Laurier campera l'agente de la mannequin et Joey Scarpellino, son copain d'acteur. À l'Atrium, nous croiserons la physiothérapeute Marie-Évelyne Lessard et la travailleuse sociale Chantal Fontaine. Mmh.
Débarqueriez-vous à Saint-Louis, signori, signorita? Êtes-vous en congé de l'amour ou sur la fausse piste de mauvais frères? Est-ce l'unique fois que vous et moi? Que cherchez-vous donc dans vos bagages, signori, signorita? De votre âge, le billet sans retour, le numéro de celui qui la nuit. Laissez-moi rêver. Signori, signorita, est-ce mon plaisir soudain ou votre parfum comme une brume du désir? Comme on dit, comme une forêt après la pluie. Apparaît à ceux qui la regardent, signori, signorita. Elle ne se donne jamais qu'à ceux qui se hasardent dans son dernier quartier de Saint-Louis où je vis. Permettez-moi de déchirer le ciel, signori, signorita. Seriez-vous de celles qui vont boire aux fontaines? Alors que j'attends la lumière comme l'eau dans le fond d'un puits. Oh, je vois déjà. Signori, signorita, je vois cette chambre où nous brûlerons nos ombres. Je sens votre main s'avancer pour me rendre mon beau Panama et ma canne blanche. J'ai soif, señorita.
Qu'on ne le fait pas jouer assez souvent, c'était Richard Desjardins et sa magnifique chanson Señorita.
Sainte Catherine, aidez-nous. C'est un article de Marie-Claude Lortie dans la presse d'aujourd'hui. Quand on marche vers l'ouest rue Sainte-Catherine en sortant du Sephora, il faut passer sur des planchers de bois suspendus pas mal au-dessus du vide. OK, ce n'est pas un moment Indiana Jones, version magasinage extrême, où, après avoir affronté les foules de clientes affamées de cosmétiques, on nous demanderait de traverser un gouffre en prenant bien soin de garder notre équilibre. Mais on ressent quand même une petite inquiétude à crapahuter, ainsi, en longeant ou en marchant par-dessus, l'immense trou du fameux chantier de construction de la principale artère commerciale de Montréal. La rue Sainte-Catherine n'est pas de tout repos par les temps qui courent. C'est le moins qu'on puisse dire. Mettons que les gens n'ont pas envie de passer par ici, résume Mélodie Clérouin, barmaid au Piranha, un bar et salle de spectacle en plein cœur du tronçon situé entre McGill et Robert Bourassa. On nous a habitués, mais les touristes, ça bloque. Les travaux n'empêchent pas les amateurs des machines de loterie vidéo scotchées à leur appareil dans la pénombre, en plein après-midi d'une parfaite journée de printemps ensoleillée, de tester leur chance. Mais on garde la porte fermée. Tout comme chez Mo 851, un peu plus à l'est, de l'autre côté de la rue. La vérité, c'est que c'est pénible, résume Marina Salas, employée sur le plancher. Il n'y a plus de trottoir, c'est bruyant, on perd en visibilité. Heureusement, le nombre de passages n'a pas bronché. Mais la porte doit rester fermée. Les passants, en outre, entrent constamment sans raison, croyant pouvoir ainsi accéder au complexe Les Ailes dont l'accès est bloqué. C'est un peu le chaos. Et devant le commerce, la rue est totalement éventrée. Et les portes verrouillées de locaux vides sont nombreuses. Ici, les gens viennent chercher de la nicotine, alors ils vont marcher pour en trouver, résume pour sa part Gabriel Lacasse, gérant du Vaporus, un peu plus à l'ouest du côté sud. Devant le marchand de vapoteuses, le chantier produit des bruits remarquables. On a une clientèle d'habitués qui ne dépend pas du lèche-vitrine. Son voisin, le Five Guys du quartier, n'est pas aussi enthousiaste. Une succursale de la chaîne de burger américaine en pleine croissance, située en plein cœur du centre-ville commercial, devrait cartonner, mais ce n'est pas le cas. Oui, c'est occupé, et même les touristes comme Simina Roxin et Martial Daniel, venus de Strasbourg, y trouvent leur chemin. Mais mettons qu'on n'a pas les augmentations de 15 à 20 comme les autres, résume le gérant Sébastien Major. Nous, on avait envie des légendaires burgers, donc on a trouvé le chemin, résume Martial, et on avait le temps. Et quelques mètres de là, sur l'avenue McGill College, Food Chain, qui propose des salades végétaliennes, roule à plein régime. Fenouil, daikon, citron et tofu, chou rave et céleri. Alors, tout cela avec des points d'interrogation. Les options végétales sont nombreuses et savoureuses et la clientèle semble apprécier sans trop se préoccuper des tonitruantes machines à l'œuvre plus loin. « Je comprends ceux qui ferment », explique un des copropriétaires, Jean-François Seine. Les commerçants qui ont des marques fortes tiennent le coup et gardent le bail. Mais pour les moins solides, c'est très difficile. Lui, en tout cas, s'il s'est installé sur l'avenue McGill College l'an dernier, il n'aurait pas signé un bail rue Sainte-Catherine, dit-il. « On est chanceux d'être à côté ». Et on a développé des stratégies. Pour compenser la difficulté d'accès, le Food Chain a lancé un service de livraison gratuite ultra rapide à pied. Le restaurant garantit que ses salades seront apportées chez le client au centre-ville dans le périmètre René-Lévesque-Sherbrooke-University-Metcalfe en moins de 20 minutes. Comme ça, on reçoit une salade directement au bureau sans avoir à traverser les travaux. En réalité, on réussit souvent en 8 minutes, précise-t-il. Pour le reste, on s'en remet à la ville. Ajoute une autre des copropriétaires, Cheryl Johnson, le troisième est Charles-Antoine Crête. En espérant que les travaux avancent rapidement et que les dommages collatéraux ne s'étalent pas. Ça ne crée pas des atmosphères de travail acceptables. Si on était intelligent, on serait beaucoup plus rapide. On travaillerait la nuit sur les chantiers pour que ça aille vite, dit Jean-François Seine, copropriétaire de Food Chain. Selon lui, le prix d'un tel blitz ne serait peut-être pas si élevé comparé aux coûts engendrés par les chantiers interminables. Parlez-en aux propriétaires de commerces sur le boulevard Saint-Laurent et dans la rue Saint-Denis. Mais certains sont à toute épreuve. Chez Sephora, les vendeuses ont de la difficulté à répondre à la demande et la file à la caisse est si longue que l'idée de profiter d'un reportage pour acheter un rouge à lèvres est bien sûr saugrenue. En ressortant sur l'installation de planches suspendues, je repense à la barmaid du Piranha qui disait que le ramassage des poubelles était devenu aussi un problème. Aux vendeurs qui ont dû gérer les conséquences d'une importante fuite de gaz au début de mars et en parlent encore. Aux portes de commerce fermées à cause de la poussière. Aux détours. Pourtant, ce n'est pas comme si on avait été pris de court par ces travaux. En 2014, la Ville de Montréal et Québec ont coordonné la tenue d'un grand colloque au Centre canadien d'architecture. Rencontres de discussion, d'éducation, de réflexion sur les chantiers, leurs impacts sur les villes et les solutions pour faire mieux. Ça s'appelait « Quel chantier? » Le design au secours des grands chantiers urbains. Je me rappelle être sortie de là optimiste. Le cône orange devenait soudain créatif. Je suis repartie de la rue Sainte-Catherine cette semaine impressionnée par la résilience des commerçants. Mais totalement découragée par cette occasion ratée de faire de cette épreuve nécessaire de réparation, quelque chose de pas trop désagréable et d'inspirant, de réfléchi. Après Saint-Laurent et Saint-Denis, on aurait dû savoir. soupir. La vision de la ville pour Sainte-Catherine, la ville de Montréal dévoilera ce midi le nouveau concept d'aménagement de la rue Sainte-Catherine-Ouest. La mairesse Valérie Plante sera présente pour l'occasion et précisera aussi la vision de son administration pour la transformation du centre-ville. Douche froide sur la ville Rennes, alors que leur ville est plongée dans le deuil depuis lundi, les amateurs de sport torontois avaient la chance de retrouver quelque peu le sourire hier soir. Les quatre principales équipes professionnelles de la ville Rennes étaient en action simultanément, dont deux dans des matchs cruciaux. Si les Raptors ont gâté leurs partisans, les Leafs, eux, se sont effondrés. C'est Simon-Olivier Lorange. Les partisans torontois ont eu droit à une douche froide, métaphoriquement en regardant les Maple Leafs gaspiller trois avances au cours de la rencontre et s'incliner 7-4 dans le septième match de leur série face aux Bruins. Et littéralement, alors que les quelques milliers de courageux qui se sont rendus regarder le match sur écran géant au centre-ville ont passé l'essentiel de leur soirée sous une pluie diluvienne balayée par le vent et un confortable 5 degrés. Les Torontois étaient en effet invités à converger vers le Maple Leaf Square, où sont présentées les rencontres des Raptors et des Leafs en série éliminatoire. Le cinquième duel entre les Raptors et le Wizard de Washington était d'ailleurs diffusé simultanément au même endroit, à l'ombre de l'imposant Air Canada Center. Au même moment, les Blue Jays s'inclinaient 4-3 devant les Red Sox de Boston au Rogers Center, et un peu plus tard, le Toronto FC baissait pavillon en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est tout pour le quotidien des quotidiens. Un grand merci d'avoir été à l'écoute. Merci Mathieu Tessier au choix musical et aussi à la mise en onde. Restez avec nous puisque dans un petit moment, c'est l'émission Les Paractualités. Et puis, je vous invite demain à écouter le quotidien des quotidiens comme toujours. Cette fois, ce sera François Brodeur qui sera à l'antenne. Ici Hélène Denis, on se retrouve mardi en ce qui concerne le quotidien des quotidiens et dans quelques minutes pour Les Paractualités.